Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, rebonjour. On dirait qu'ils ne font que passer. Après Françoise Nyssen et Franck Riester, Roselyne Bachelot est déjà le troisième ministre de la Culture sous Emmanuel Macron. La valse ne date pas d'hier. Pourquoi une telle intermittence? Comment un ministre de la Culture peut-il durer? Nous allons poser la question au co-recordman de la fonction, Jack Lang, invité de Culture Média ce matin. Les indispensables du jour, Clémence Olivier vient nous parler d'une série terrible autour du viol sur OCS. I may destroy you, il se pourrait que je te détruise. Et puis première page, nous découvrons ce matin celle du roman Héritage, signé Miguel Bonnefoy, à paraître en août chez Rivage. Culture Média deuxième heure va commencer. Où que vous soyez, belle matinée à vous, le journal de la culture est enclenché. Bonjour Damien Caprespine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Au sommaire de votre journal aujourd'hui?
Au sommaire, des canards tristes, des trésors hollywoodiens, une chanteuse à la recherche de l'amour, un festival éclectique, le roi des séries qui adapte le roi de l'horreur et un album culte.
Et on commence avec la disparition de Gigi Lionel.
Gigi Lionel, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais je suis sûr que vous connaissez au moins un de ses titres.
C'est la danse des canards qui en sortant de la main.
Aïe, aïe, aïe.
L'interprète de la danse des canards est décédé hier d'une tumeur au cerveau. Jean-Jacques Blairon, de son vrai nom, avait connu un succès phénoménal en 1981 avec ce titre drôle et léger, devenu un hymne à la fête grâce notamment à sa chorégraphie minimaliste. Vous vous souvenez très bien de cette chorégraphie, je suis sûr, Pascal.
Ah oui, parfaitement.
Parfaitement. À l'époque, le 45 tours, il s'était vendu à 3,5 millions d'exemplaires. Mais le chanteur ne touchait que des droits d'interprète. Il n'était ni l'auteur, ni le compositeur du tube. Dans les années qui ont suivi, il n'a jamais connu un succès aussi retentissant. Faut dire que c'était énorme. Mais il a poursuivi sa carrière un peu plus discrètement en Belgique. Son pays natal, Gigi Lionel avait 72 ans.
Et il est mort le jour de la Saint-Donald, c'est véridique. C'est vrai,
c'est
Donald
joli.
Duck, ouais. Dans le journal Libération ce matin, un avis d'obsèques rempli de poésie.
Quelques mots publiés par la famille et les proches de Delphine Lévy. Delphine Lévy, c'était la directrice de l'entité Paris Musée qui chapeaute les 14 musées de la capitale. Je vous lis ce message publié dans le carnet du quotidien. Sous le soleil, dans l'océan, le 12 juillet, Delphine Lévy a perdu conscience. Le lendemain, son cœur a cessé de battre. Voilà, Delphine Lévy est décédée des suites d'un AVC il y a quelques jours. Elle avait 51 ans.
Aux États-Unis, les fans de Tom Cruise vont pouvoir s'envoyer en l'air.
Si vous aimez les blousons en cuir et les lunettes d'aviateur, cette nouvelle devrait vous ravir puisque le casque porté par Tom Cruise dans le film Top Gun, génial Top Gun, sorti en 1986, fait partie des 870 accessoires de cinéma qui seront proposés lors d'une grande vente aux enchères. Elle se déroulera à Los Angeles. Ce sera le 26 et 27 août prochain. On réécoute un peu de Top Gun.
Chaque fois que tu montes en avion, tu es incontrôlable. C'est vrai. Et même très dangereux.
Très dangereux,
en
Tom
VF,
Cruise.
Ouais, en VF,
en VF.
Bah,
bah, oui, mais bon, ouais. En VO, VF. Hein. Ouais. Le casque du pilote Maverick, donc Tom Cruise, pourrait atteindre les 61 000 euros. Parmi les autres accessoires proposés dans cette vente aux enchères, une caméra d'Alfred Hitchcock, une maquette de vaisseau utilisée pour le film Alien, et les voitures de Leonardo DiCaprio et Brad Pitt dans le film Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Alors les organisateurs de l'événement espèrent récolter plus de 5 millions d'euros grâce au penchant fétichiste des cinéphiles. Et sinon, si vous aimez Top Gun, vous pouvez aussi attendre la sortie de Top Gun 2. Ce sera le 23 décembre prochain.
Dans un autre style, Damien, la chanteuse Soko sort un nouvel album.
Soko, vous la connaissez peut-être, c'est une chanteuse, mais c'est aussi une comédienne qu'on a vue notamment dans le film Augustine avec Vincent Lindon, ou dans La Danseuse qui lui a valu une nomination au César en 2017 dans la catégorie Meilleure Actrice. Aujourd'hui, elle revient donc en tant que chanteuse avec un nouvel album qui s'intitule Feel Feelings, 12 titres qui célèbrent l'amour, un album langoureux, délicat, totalement apaisant. Je vous propose qu'on écoute un extrait, le titre s'appelle Looking for Love, à la recherche de l'amour, c'est un beau programme.
Looking for Love, c'est signé Soko. On part dans le sud de la France, le festival de Ramatuelle aura bien lieu.
Il se déroulera du 28 juillet au 10 août prochain et le programme s'annonce déjà virevoltant. De l'humoriste Jarry au rappeur Abdelmalik, de Pierre Palmade à Jacques Weber, le festival accueillera au total une dizaine de spectacles, des spectacles très différents les uns des autres. Et cet éclectisme, il est totalement revendiqué par le directeur artistique du festival, le comédien Michel Boujna.
Tout est possible à Ramatuelle à partir du moment où c'est beau, où c'est drôle, où c'est mouvant. Le spectacle à Ramatuelle, c'est toutes les disciplines. Voilà, et dans toutes les différences.
Alors forcément, le théâtre en plein air de Ramatuelle verra sa jauge réduite et les représentations se feront dans le plus grand respect des normes sanitaires. Mais pour Michel Boujna, cette édition devait absolument avoir lieu, malgré les difficultés rencontrées.
Dans des périodes très violentes comme ça et très dures, justement, on doit continuer à rire, à pleurer, à rêver tous ensemble.
Le rire, les larmes, le rêve. Donc si vous voulez passer par toutes ces émotions, rendez-vous du 28 juillet au 10 août à Ramatuelle. La billetterie est déjà ouverte.
Un nouveau projet pour le producteur de série Ryan Murphy.
Ryan Murphy, c'est un peu la star du moment en matière de série. C'est lui qui a produit entre autres Nip Tuck, Glee ou encore la série Hollywood que vous avez peut-être vue pendant le confinement. C'était une très belle série. Et aujourd'hui, il annonce qu'il va s'attaquer dans les prochaines semaines à l'adaptation d'une nouvelle écrite par Stephen King, le roi incontesté de l'horreur et du suspense. Et ce sera pour Netflix. Alors le pitch. Un jeune garçon rencontre un milliardaire qui lui offre un smartphone. À la mort de ce dernier, le garçon s'aperçoit qu'il peut continuer à communiquer avec lui via le téléphone que le milliardaire a gardé dans sa poche au moment où il a été enterré. Alors il y aura donc du bizarre, de l'étrange, des voix venues de l'au-delà et donc ça s'annonce assez réjouissant. Et puis les fans de Stephen King, ils vont être définitivement aux anges. Parce que le site américain Deadline annonce que deux autres nouvelles du maître de l'horreur pourraient être adaptées prochainement. L'une serait réalisée par Darren Aronofsky, vous vous souvenez peut-être du film Black Swan, c'est lui qui l'avait réalisé. Et l'autre pourrait être réalisée par le comique Ben Stiller. Alors bref, on n'a pas fini de frissonner. Hein,
Et le forfait téléphonique d'Outre-Tombe, on n'avait pas encore vu ça.
Et non, ouais. c'est Stephen King.
On termine avec la réédition d'un monument rock.
Oui, le mythique 33 tours Closer du groupe britannique Joy Division va effectivement ressortir demain en vinyle à l'occasion des 40 ans de l'album. Alors, cet album Closer s'est considéré comme l'un des plus grands disques de tous les temps par les puristes. Il est sorti quelques mois après la disparition de Ian Curtis, le leader du groupe. La chanson Love Will Tear Us Apart, le titre phare de Joy Division, probablement leur plus grand tube, fera également l'objet d'une réédition. Et donc je vous propose de terminer ce journal sur ces quelques notes. Pourquoi ? Bah parce que ça fait du bien. Et voilà.
Joy Division sur Europe 1, un grand merci Damien Cabrespina.
Hein, j'adore cette chanson.
Moi aussi. Et à demain. Avant de recevoir Jack Lang, musique avec l'anglaise Dua Lipa, Physical.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
C'est une fonction qui a tendance à ressembler à un rodéo, ministre de la Culture. Troisième nomination en un peu plus de 3 ans sous la présidence Macron. Roselyne Bachelot remplace Franck Riester qui avait remplacé Françoise Nyssen. Mais la valse ne date pas d'hier. En moyenne, sous la 5e, on a changé de ministre de la Culture tous les 2 ans. Beaucoup d'entre eux ont été oubliés. Depuis André Malraux sous De Gaulle, un seul nom a marqué, c'est le vôtre. Bonjour Jack Lang.
Bonjour.
Ce constat vous fait plaisir ou bien il vous désole honnêtement ?
Ni l'un ni l'autre. Non, ça me désole quand même de constater qu'il y a cette instabilité ministérielle. C'est un paradoxe dans un régime politique qui exalte sa propre stabilité.
Mmh. Vous avez passé 10 années en 2 sessions, rue de Valois. Vous avez été le ministre de la Culture de François Mitterrand pendant ces 2 septennats. Il faut juste retrancher les 2 années de cohabitation. Est-ce que vous comprenez votre propre longévité ? Est-ce qu'on peut dire déjà que c'était une autre époque ?
À coup sûr, c'était une autre époque. Mais pourquoi c'était une autre époque ? Parce que nous étions portés, je veux dire, nos équipes, le président de la République en tête, nous étions portés par un mouvement de fond, sinon, dans beaucoup de domaines, pas seulement la culture. L'économie, les privatisations, les nationalisations, pardon.
Attention au lapsus, là.
Oui, enfin, ouais. Bon, parce que ensuite,
il y en a eu quand même, ouais.
Ça n'a pas tenu le coup ensuite. Ouais. Et puis le reste, bon, la libération audiovisuelle et le reste. Donc nous étions portés par un mouvement depuis des années, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, les mouvements culturels. Nous rêvions d'un profond changement. Nous combattions durement les gouvernements de droite de l'époque. Et lorsque François Mitterrand devient président de la République, la culture, elle est considérée par lui, il le dit et le répète, comme le socle ou un des socles du changement.
Alors depuis, Jack Lang, c'est même source de plaisanterie, hein, vous êtes un peu le ministre de la Culture éternelle. À chaque fois, quasiment, vous recevez un coup de fil du nouveau ministre. On vous a vu aux côtés de Roselyne Bachelot lors de sa première sortie de terrain à Strasbourg. Pourquoi est-ce que tout le monde veut des conseils et est-ce que vous en donnez ?
Bon, d'abord, Roselyne Bachelot est une personnalité que je connais, puisque nous nous croisons assez souvent à l'Opéra en particulier, qui n'est pas fréquentée en général par les personnalités politiques. Elle est venue à l'Institut du Monde Arabe plusieurs fois.
Que vous présidez, que je n'ai pas encore rappelé.
Ouais. Découvrir des expositions comme celle comme Chrétien d'Orient ou Al-Oula. Et puis, assez tôt, j'ai eu une sympathie pour elle en raison de son courage intellectuel. Elle a été la seule députée, le seul membre du Parlement qui a voté le Pax, alors même que tous les membres de son groupe étaient violemment hostile. Moi, j'aime les gens qui ont des tripes, j'aime les gens qui ont un courage intérieur et qui font prévaloir leurs convictions sur la petite tactique politique.
Et forcément, vous lui avez quand même prodigué quelques conseils, non, à Roselyne Bachelot ?
Conseils, non. Vous savez, on l'a bavardé, je suis à sa disposition. Je lui transmets aussi parfois des demandes ou des suggestions venant des uns ou des autres. Voilà, nous avons des rapports simples, directs, sans chichi. Voilà, et en même temps, je lui fiche la paix quand même.
Ah oui, quand même.
Sûrement même, il le faut.
Vous ne serez, serez pas l'ombre portée.
Sûrement pas. Elle a son tempérament, croyez-moi.
Vous appelez, mais ça ne date pas d'hier, hein, Jack Lang, à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre, vous appelez à un New Deal dans le domaine de la culture, à une révolution. Elle n'arrive pas.
Peut-être qu'elle viendra, je n'en sais rien. Mais ce qui est vrai, c'est que quand vous regardez les choses sur la longue durée, sur le site de l'histoire, chaque fois qu'il y a eu un grand changement politique ou une grande crise, il y a eu une refondation de la politique des arts. Front populaire, Jean Zay. Libération, après la guerre, la naissance du TNP, Villard, les Centres dramatiques nationaux. 1958, la création du ministère de la Culture, André Malraux. 1981, l'époque à laquelle j'ai participé, qui est toujours présente dans mon esprit, François Mitterrand. Et je me dis que cette crise, qui n'a rien à voir avec une crise politique...
Oui, mais regardez, pardon de vous interrompre, mais Emmanuel Macron, on peut dire que c'était un gros changement, inattendu, etc. Françoise Nyssen, l'année d'après Franck Riester, l'année d'après Roselyne Bachelot. Donc là, c'est...
Non, pour l'heure, il n'y a pas eu cette révolution qu'on peut attendre. D'ailleurs, cette révolution, on l'attendrait aussi pour la science, pour le savoir, pour la recherche scientifique, pour l'enseignement supérieur, dans tous les domaines, disons, qui relèvent de l'intelligence, de la création et de l'invention. On l'attendrait aussi pour la radio et la télévision. Alors peut-être c'est à venir dans les prochaines semaines.
On verra Roselyne Bachelot qui succède à une trentaine de noms depuis André Malraux. Elle arrive dans un paysage culturel ravagé par le coronavirus. Tout le monde souffre, singulièrement les spectacles vivants. Comment faire ? On va en parler avec vous, Jack Lang. C'est dans deux minutes. Vous êtes l'invité de Culture Média ce matin.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Qu'est-ce qu'un bon ministre de la Culture ? Comment faire pour durer un peu quand même ? Ce sont les questions que nous posons ce matin à l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang. Les hommes ou les femmes sont-ils responsables de la valse, Jack Lang ? Ou alors c'est un problème de système, selon vous ?
De la valse des
oui,
ministres
bah oui, pourquoi le ministre de la Culture change tout le temps ?
Je crois que la première raison, c'est que la société elle-même n'est pas aujourd'hui assez mobilisée vers la création, vers la culture, vers... Et, disons, les hauts responsables du pays n'en ont pas fait jusqu'à présent, et ça peut changer, un axe prioritaire de leur action. Quand nous étions en responsabilité, c'était pas seulement le ministre, c'était tout le gouvernement. J'avais utilisé cette formule lors de mon premier discours à l'Assemblée. Je rêve que dans ce gouvernement, il n'y ait pas seulement un ministre de la Culture, mais 45 ministres de la Culture. Et de fait, les ministres de la Justice, de la Santé, de l'Économie se sont mis en action. Et le président de la République, bien sûr. Et partout dans le pays, les municipalités, les régions. Il y avait donc une mobilisation profonde des énergies, des talents, une volonté collective puissante. Voilà, et... À partir de là, il y avait mon propre tempérament, c'est vrai, mais chacun son style. Il se fait que je ne débarquais pas de Vénus ou de Mars, mais que pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'étais engagé dans la vie artistique et culturelle, à Nancy, à Chaillot, ailleurs, auprès de François Mitterrand. Donc, il y avait un rapport, pardon de dire, de confiance entre François Mitterrand et moi-même. Nous formions, si j'ose dire, un tandem, une sorte de duo. Je respectais beaucoup le président et je l'aimais énormément, et toujours aujourd'hui, il m'accordait sa confiance, et on fonçait, c'était une locomotive qui fonçait à 1000 à l'heure.
Mmh. On va jouer à un petit jeu, peut-être un peu cruel, Jack Lang, je vais vous faire écouter la voix de certains ministres de la Culture, on va voir si vous les identifiez, à mon avis il n'y aura pas de problème, en tout cas le premier d'entre eux est assez simple.
Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique.
Bon, facile.
André Malraux, évidemment.
André Malraux, 1964, le suivant.
Les ministres qui passent à la culture se sentent absolument obligés de faire des actions spectaculaires. Qui fassent parler la presse, qui normalement s'intéressent au spectaculaire, et ils veulent attacher leur nom à quelque chose. Moi, je suis dans une situation idéale, je ne veux attacher mon nom à rien du tout, et je voudrais, étant à cette époque charnière, à mon avis, du ministère de la Culture, faire tout d'un coup des choses en profondeur.
Jack Lang sèche, vous entendez bien ou...
J'entends mal, je viens un peu sourdingue sur les bords.
Et, on va peut-être vous mettre un masque, un masque, n'importe quoi, je suis omnibulé, un casque, je voulais dire, si
non,
quelqu'un peut venir.
Non. Madame Albanel, non.
Non.
Bon, voilà, j'ai pas que pas...
Françoise Giroud.
Qui ça?
Françoise Giroud.
Ah, Françoise Giroud.
Ah, vous l'avez oublié, 1976.
Non, mais, oui, Françoise Giroud, ça, c'est impardonnable.
On continue.
Et je crois que du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire l'accès du plus large public à la culture et aux biens culturels, et en particulier des jeunes, il faut favoriser un travail comme celui du jeune Megastore.
Bon.
Non, je crois que ma surdité galopante...
Jacques Toubon. Vous vous souvenez de Jacques Toubon quand même hein,
qui oui, vient bien de... sûr, je le connais. Ouais. Nous avons d'ailleurs croisé le fer souvent lorsqu'il était à la mairie de Paris. Il était avec Jacques Chirac un adversaire de notre politique.
Et il vient de quitter ses fonctions de défenseur des droits. Où il a été excellent.
Enfin, il a été finalement, c'est une fonction qui m'est chère parce que j'ai contribué à la faire introduire dans la Constitution à l'époque de M. Sarkozy. Et c'est un parcours assez particulier d'un homme plutôt conservateur qui achève son mouvement plutôt en humaniste ouvert.
Il en reste deux, on va continuer parce qu'on est joueur ici.
Et moi je suis attaché à deux priorités, à la gratuité du livre scolaire, à la gratuité de la consultation des livres dans les bibliothèques municipales, mais en même temps, à la défense des livres.
J'ai trouvé. Douce de Blasie.
Bien, un point. Philippe Douce de
Blasie. Il a une petite manière d'articuler, un petit accent aussi.
Philippe Douce de Blasie, 1995, et le dernier, qui est une dernière.
Et ce qui est important, je crois, et ce qui reste, et c'est pour ça que la fête de la musique reste aussi forte, longtemps après sa création, c'est que justement la
Françoise
musique nous rassemble.
Lyssen, non ?
Ah non, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais c'est Audrey Azoulay.
Ah oui, bon.
Sous François Hollande, vous devriez le savoir quand même.
Je le sais, évidemment,
oui,
je le sais, mais
non,
bon,
c'est
encore
pas
une
évident.
Fois,
ouais, le
je
son
sais
est...
pas, c'est votre système de verrière ici.
Ah bah, il y a du
fait,
plexiglas, hein, on le cache pas, voilà. Oui. On note qu'il y a eu pas mal de femmes au ministère de la Culture. Nyssen, Aurélie Filippetti, Fleur Pellerin, Christine Albanel, Catherine Tasca, Catherine Trottmann, Françoise Giroud. Je suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle. Vous savez, quand on nomme les femmes, ça veut dire que, malheureusement, encore, que c'est pas un poste important. Vous êtes d'accord avec ça?
Ce fut souvent le cas, vous avez raison, pas seulement au ministère de la Culture, mais la Roselyne Bachelot n'est pas n'importe quelle femme.
Mmh. Ah, vous êtes très Bachelot quand même. Hein.
Non, c'est-à-dire que son style n'est pas le mien, évidemment, nos convictions ne sont pas comparables, mais elle a une personnalité.
Mmh. Nous sommes en période de crise avec ce coronavirus, très rapidement, parce qu'on va faire une interruption dans quelques secondes. La culture passe pour superflu, non ?
C'est une très grande faute, c'est une très grande erreur. Si l'on veut redonner à notre pays la confiance, l'espoir, l'envie, le désir, le bonheur d'être ensemble, c'est par la culture, c'est par l'éducation, c'est par la recherche, c'est par la création. C'est possible si on le veut profondément et pas seulement par quelques petites annonces superficielles.
Mmh. On va revenir sur vos 10 années à la tête du ministère de la Culture, Jack Lang. 27 ans que vous l'avez quitté quand même. Préparez vos souvenirs, on revient dans deux minutes.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Chaque année, quand arrive le mois de juin, sauf peut-être le mois dernier, arrive également la fête de la musique. Et on rappelle que c'est vous qui l'avez créé, Jack Lang, en 1982. On va vous réécouter à l'occasion de cette première fête de la musique.
Notre projet pour la culture en France aujourd'hui, ce n'est pas seulement un projet artistique. C'est aussi une volonté, je crois, de l'ensemble des Français de retrouver un nouvel art de vivre. Mieux se connaître, se rencontrer, échanger, établir entre les gens des rapports plus cordiaux, plus amicaux.
Vous avez retrouvé qui parlait, là ?
Oui, je vous l'avais dit.
La voix est plus claire. C'est votre grande fierté, ça, la fête de la musique ?
Je ne sais pas le mot fierté, je ne connais pas bien, mais bon, je ne peux pas être malheureux qu'une petite idée simple... qui n'était pas supposé durer, finalement, se soit progressivement installé dans les têtes, dans les cœurs, dans chaque village, dans chaque ville, et aujourd'hui dans le monde entier. Oui, en effet, c'est une source, disons, de satisfaction.
Alors, on retient aussi les journées du patrimoine, la fête du cinéma, la techno-parade, le prix unique du livre. Qu'avez-vous raté ?
Ce que j'ai raté, ce sont des projets que je n'ai pas pu mener à terme. Par exemple, au Palais de Tokyo, que vous connaissez, j'avais le projet d'y créer un véritable palais du cinéma qui aurait rassemblé la cinémathèque, disposant enfin de vrais locaux, la bibliothèque du cinéma, l'école du cinéma... Et finalement, je veux le dire, c'est pas très gentil pour elle, mais Madame Trottmann a décidé de mettre à néant ce projet. Mais la faute m'en revient parce que je ne l'ai pas fait avancer assez vite pour qu'il devienne indestructible.
Est-ce qu'il y a aussi des inconvénients à rester trop longtemps à un poste ? Au total 10 années rue de Valois, à la tête du ministère de la Culture. Du coup, est-ce que il n'y a pas au bout d'un moment du favoritisme avec certains artistes ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses comme ça ?
Le favoritisme, s'il existe, il peut se pratiquer dès la première minute. Ça n'a jamais été ma façon de concevoir les choses.
Et le goût du pouvoir ?
Le goût du pouvoir ne m'habite pas vraiment. Ce qui m'habite, c'est le goût de l'action. Alors effectivement, quand vous êtes ministre de la République, de François Mitterrand, et en particulier de la culture, dès les premiers instants, vous êtes doté d'un budget sans précédent. Nous avons doublé ce budget en un instant.
Ça se joue là beaucoup.
Pardon ?
Le budget est très important.
Très important,
ça
évidemment.
Commence là.
Surtout à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, c'était un tout petit budget de rien du tout, 0,45% du budget de l'État. La plupart des domaines étaient à l'abandon. Et donc, tout à coup, nous avons disposé de leviers d'action. Ça, c'est excitant. Et enivrant. Pouvoir donner la possibilité à des jeunes talents en particulier, ça a toujours été mon obsession aujourd'hui encore, découvrir de nouveaux créateurs, leur donner la chance d'inventer, de créer. Ça, c'est enivrant et oui, alors est-ce que c'est le pouvoir ? C'est le pouvoir d'agir.
Je signale que vous avez démissionné deux fois, vous en souvenez ?
J'ai failli démissionner. Non.
Vous avez présenté votre démission qui a été refusée par François Mitterrand, vrai ou pas ?
Non, c'est pas tout à fait ça. Une première fois, c'est parce que mon frère, j'ai pas spécialement envie d'en parler, avait commis un acte qui lui a valu d'être arrêté. Et je suis allé voir François Mitterrand pour lui dire si cette situation porte préjudice à vous-même et au gouvernement, je démissionne. Et il m'a répondu aussitôt, mais il n'y a pas de responsabilité collective. Retournez à votre travail, je compte sur vous et foncez.
Et la seconde ?
La seconde fois, c'était un désaccord, un des rares désaccords, entre François Mitterrand et moi-même, sur la création d'une chaîne privée, qui s'appelait la 5, je crois.
De Berlusconi.
De Berlusconi et de Jérôme Sédoux, et de Nicolas Sédoux aussi, on l'a oublié, et de quelques autres. J'étais en désaccord sur la manière dont le projet s'est inventé.
Et refusé à nouveau ?
Non, c'est-à-dire que j'ai fait valoir auprès de Laurent Fabius, Premier ministre, auprès de François Mitterrand, mes désaccords. À un moment donné, c'est vrai que j'étais au bord de la démission, mais je n'ai pas présenté ma démission.
Aujourd'hui, Jack Lang, vous avez 80 ans, pardon de le rappeler.
Ça... Je ne le crois pas, mais vous le dites, il faut donc le croire.
Est-ce qu'il arrive que vous vous sentiez dépassé, parce que les choses sont vite, à la fois dans les médias et aussi dans la culture, ou alors vous dites que ce n'est pas une question d'âge ?
Non, bien sûr que l'âge compte. Mais enfin, il se fait que mon état d'esprit est celui, a toujours été celui de quelqu'un qui aime découvrir. Tout à l'heure, je vous le disais. Alors, il y a des domaines qui par tempérament, me sont assez étranges. C'est justement celui des nouvelles technologies. Mais s'agissant alors du contenu même de l'art, des créations, alors je me sens aujourd'hui en phase avec toute une série de mouvements et de créateurs.
On va découvrir précisément une série Faites passer les indispensables d'Europe 1, recommandation signée Clémence Olivier. C'est dans deux minutes.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Nous sommes toujours avec l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, et c'est l'heure des indispensables d'Europe 1. Bonjour Clémence Olivier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Une série sur OCS, série britannique, elle s'appelle I May Destroy You, ce qui pourrait être traduit par Il se pourrait que je te détruise, quelque chose comme ça, Clémence.
Oui, et autant vous le dire tout de suite, Pascal, cette série n'est pas comme les autres. Elle est de celles qui vous questionnent, qui restent en mémoire longtemps après l'avoir terminée. Dans I May Destroy You, on suit Arabella à Londres. C'est une femme noire aux cheveux roses de 30 ans. Elle est autrice, elle a déjà une petite notoriété sur les réseaux sociaux. Un soir où l'inspiration ne vient pas, elle décide de partir danser en boîte avec des amis. Bon, jusque-là, vous me direz, c'est une soirée assez ordinaire. Mais le lendemain, quand elle se réveille, elle est blessée au front, son portable est cassé et un sentiment étrange la parcourt.
Got this, like, thing in my head.
J'ai des images dans la tête d'un mec.
Il
est dans les toilettes et il fait un truc chelou. Il transpire, il respire, il a des grosses narines. On dirait qu'il bloque la porte des chiottes et la porte fait comme un battement sourd. Avant que tu arrives, je regardais des vidéos sur YouTube pour pas y penser, tu vois.
Ce que Arabella est en train de comprendre, c'est que la nuit précédente, elle a été droguée, elle a été violée aussi, mais elle ne sait pas qui est son agresseur ni comment il a agi.
Et la série, c'est donc l'enquête pour retrouver son violeur ?
Eh bien, pas vraiment. C'est vrai que Arabella va partir en quête de la vérité. Elle porte plainte et une enquête est ouverte. On va suivre les résultats tout au long des épisodes, mais ce n'est pas ça le cœur de la série. Le vrai sujet, ce sont les conséquences d'un viol sur sa victime, la vie d'après en somme et l'introspection qui en découle.
Que faites-vous quand ça devient trop dur ?
Je m'arrange pour voir quelqu'un, n'importe qui. Et sinon, je me dis à moi-même, il y a des enfants qui ont faim, il y a des enfants qui ont faim, il y a des enfants qui ont faim. Il y a la guerre en Syrie, il y a la guerre en Syrie, il y a la guerre en Syrie. Tout le monde n'a pas de portable, tout le monde n'a pas de portable. Pour me rappeler qu'il y a pire.
Et cette série, donc, elle s'inspire d'une histoire vraie, Clémence ?
Oui, tout à fait. C'est celle de la créatrice de la série, Michaela Coel. En 2018, elle avait révélé avoir été victime d'agressions sexuelles. C'est ce qui a nourri son scénario. Mais il faut savoir que c'est aussi Michaela Coel qui interprète le rôle principal et qui co-réalise.
Elle a donc transposé à l'écran son propre viol.
Oui, mais elle l'a fait d'une manière très singulière, car très immersive. Dans chacun des épisodes, on a le sentiment d'être dans la peau d'Arabella, dans la peau de la victime. Par exemple, la scène de viol qui revient tout au long de la série sous forme de flashback, eh bien elle est filmée du point de vue d'Arabella. Alors on voit pas grand-chose, si ce n'est le visage flou de l'agresseur. Il s'approche et recule de la caméra dans un mouvement de va-et-vient. Et pour nous, spectateurs, eh bien ça renforce la sensation de malaise et c'est le but recherché. Le viol n'est pas érotisé, le spectateur n'est pas dans une position de voyeur et ça, eh bien ça change tout.
C'est pas trop difficile à regarder.
Bah, disons que c'est une série trash, hein, mais elle est aussi drôle par moments. Et puis son tour de force, c'est de briser les tabous autour de la féminité. Par exemple, en montrant un tampon gorgé de sang pendant une scène de sexe, c'est hyper osée. Elle nous fait aussi réfléchir sur la notion de consentement en balayant tous les points de vue. Bref, c'est une série presque éducative, mais surtout très moderne.
Pour vous, c'est une bonne série, Clément ? Ça vous a plu ?
Oui, ça m'a vraiment beaucoup plu, car I May Destroy You, elle ne fait pas que parler d'une façon très inédite du viol et de ses conséquences. Elle nous pousse à l'introspection, elle nous bouscule, comme rarement. Et puis aussi, elle brosse le portrait d'une génération, les millennials, des jeunes un peu paumés, accros aux smartphones, très libres dans leur façon de vivre leur sexualité. Et elle le fait sur une bande son hip-hop hyper planante.
Wow. Ouais, belle musique, hein, ça ne gâche rien. Où peut-on voir cette série, Clémence ?
Alors, les 6 premiers épisodes sont disponibles sur OCS. Au total, il y en a 12. Mais si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est de ne pas tous les avaler d'un coup. C'est une série dont chacun des épisodes se digère.
Mm-hmm. Ça s'appelle I May Destroy You et c'est recommandé par Clémence Olivier, indispensable Europe 1. Merci Clémence.
Merci.
Bon, Jack Lang ici, vous l'avez compris, on fait tourner. On aime bien que les choses qu'on a aimées soient aimées par d'autres. Est-ce que vous avez des choses à nous recommander ?
Ah, je ne parlerai pas avec le même talent que vous. Et, finalement, ce film, enfin cette série plutôt, qui est brutal, qui est dur, vous avez fait comprendre. Vous m'avez donné envie de la découvrir. Et je ne sais pas si je suis capable de faire la même chose que vous. Je dirais quoi ? J'ai envie de découvrir surtout les choses que je n'ai pas encore vues. Par exemple, les films, le film d'Ozon, le film de Philippe Garrel.
Été 85,
excusez-moi. Le film d'Ozon, le film de Philippe Garrel, qui paraît-il était très beau.
Dont le nom m'échappe tout de suite.
Dont le nom mais... est, j'avais noté quelque part.
Si quelqu'un l'a enregistré, je suis preneuse.
Les étoiles, ou je ne sais plus quoi, dans le ciel, ou le sel. Pardon, le sel des larmes.
Je savais qu'il y avait du larmes. Sel, ouais, voilà. Du tout.
C'est beau. ou les larmes de sel. Mm-hmm. Le sel des larmes, c'est le titre exact. Et puis, comme livre, Anne Sinclair m'a offert son dernier livre.
Ah, vous êtes chanceux.
Ben oui, je suis chanceux. En plus, ce livre a survécu en quelque sorte au cataclysme, à tous les cataclysmes même. Et c'est un livre douloureux, en même temps tendre, fort, et qui raconte une partie de sa vie, à travers sa vie, une histoire horrible qui était celle du nazisme, de la guerre, de l'écrasement des juifs. Enfin, c'est un très grand, très beau livre.
La rafle des notables.
La rafle des notables, bravo.
Chez Grasset.
Chez Grasset. Vous savez tout, vous.
Non, mais j'ai un peu d'aide. En... Merci Jack Lang. Dans 2 minutes, on conclut ensemble. Partez pas tout de suite encore.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.
Jack Lang, éternel ministre de la Culture et actuel président de l'IMA, l'Institut du Monde Arabe. Que faudrait-il pour terminer cette discussion, Jack Lang, pour qu'enfin on ait un ou une ministre de la Culture marquant dont on se souvienne, ne serait-ce que dans... je sais pas, dans quelques années, dans 5, dans 10 ans? Ça dépend de quoi? Ça dépend du président de la République?
Ça dépend moins du ministre que du climat, de l'ambition collective. Oui ou non, souhaite-t-on que dans ce pays, la culture, au-delà de la culture, l'éducation, le savoir, la science, occupent non pas la deuxième, non pas la troisième, mais la première place. Et pour l'heure, je n'ai pas entendu cette expression.
Oui, mais regardez, est-ce que la première place, là, c'est pas... tout pour lutter contre le chômage qui va être immense avec cette crise.
Ça va de soi.
Ça passe après la culture ou comment fait-on alors ?
Mais c'est lié, tout ça est lié. Je veux dire, la bataille pour l'emploi qui est engagée aujourd'hui, et bravo, j'espère qu'on va aller loin et très loin, doit s'accompagner d'une bataille culturelle, d'une bataille pour le savoir, d'une bataille pour l'éducation, d'une bataille pour la beauté, d'une bataille pour l'harmonie, d'une bataille pour l'architecture. Et si on veut redonner de l'espoir aux gens, il faut se battre sur les deux fronts, le front économique et le front culturel.
Oui, on peut dire aussi que la priorité numéro un, c'est l'environnement, c'est l'écologie, et ce serait...
Ça en fait partie. D'ailleurs, au passage, je regrette que les mouvements écologistes, à commencer par le mouvement de M. Hulot, jamais n'évoquent les questions de culture. Il a présenté, il y a quelques semaines, 120 propositions, pas un seul mot sur la culture. Ça, c'est une des grandes faiblesses. Et la plupart des partis politiques aujourd'hui s'en moquent. Et pas seulement les responsables actuels. La plupart des partis politiques, pour eux, la culture est aux abonnés absents. Et ça, si on veut changer les choses, c'est pas seulement un ministre qui peut faire bouger. C'est toute la société, c'est tout le gouvernement, ce sont les mouvements politiques, les mouvements sociaux, etc. Et on retrouvera alors cette ferveur, cet élan, ce désir, cette passion que les Français, au fond, souhaitent, je le sais, je le sens, ils ont envie d'être emportés vers de nouvelles frontières, vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles perspectives. Ils sont attachés évidemment à leur situation matérielle, mais ils ont besoin aussi que l'âme soit satisfaite, que l'esprit soit honoré et que leur désir d'harmonie, de beauté soit satisfait. Mmh. J'en suis certain.
Là, il nous reste une petite minute pour terminer. Oui. Est-ce qu'il y aurait une ou deux mesures à prendre en ce moment, donc dans un paysage très particulier, hein, avec ce coronavirus? Que feriez-vous?
Vous parlez pour la culture.
Oui.
Ah ben, pour moi, il y a une chose qui est vitale, déterminante, c'est reprendre le plan art à l'école que nous avions conçu avec Catherine Tasca, qui consiste à faire de la culture et de l'art l'un des fondamentaux, je dis bien, de l'école, au même titre que la lecture, les mathématiques et le reste. Ça veut dire dans les horaires, dans la préparation des maîtres, dans la présence d'artistes et d'écrivains dans les écoles, de la maternelle à l'université. Et si on veut lutter contre l'abêtissement, l'avilissement, la médiocrisation, la spéculation culturelle qui envahit les ondes et les télévisions et le reste, c'est à l'école qu'il faut transformer les choses, faire de l'école un lieu de résistance culturelle et d'accomplissement plein et entier des enfants.
Merci beaucoup, Jack Lang, d'être passé par Culture Média ce matin. Vous êtes sur TikTok ou pas?
Pardon?
Non, laissez tomber. Musique. Avant le rendez-vous première page, voici un rappeur découvert sur TikTok qui s'appelle Lil Nas X Old Time Road. Lazare Lansonnier lisait dans son bain quand la nouvelle de la Première Guerre mondiale arriva jusqu'au Chili. À cette époque, il avait pris l'habitude de feuilleter le journal français à 12 000 km de distance, dans une eau parfumée d'écorce de citron. Et plus tard, lorsqu'il revint du front avec une moitié de poumon, ayant perdu deux frères dans les tranchées de la Marne, il ne put jamais réellement séparer l'odeur des agrumes de celle des obus. Selon le récit familial, son père avait autrefois fui la France avec 30 francs dans une poche et un pied de vigne dans l'autre. Né à Lons-le-Saunier, sur les coteaux du Jura, il tenait un vignoble de 6 hectares quand la maladie du phylloxéra apparut, sécha ses cèpes et le poussa à la faillite. Il ne lui resta en quelques mois, après 4 générations de vignerons, en contrebas des versants, que des racines mortes dans des vergers de pommiers et des plantes sauvages desquelles il tirait une absinthe triste. Il quitta ce pays de calcaire et de céréales, de morilles et de noix, pour s'embarquer sur un navire en fer qui partait du Havre. La première page de Miguel Bonnefoy Rivage, héritage, pardon, chez Rivage, que vous découvrirez à partir du 19 août. Culture Média, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain matin 9h avec l'animateur humoriste Jarry et le chanteur-compositeur Woodkid. À suivre sur Europe 1, Anne Roumanoff, le best-of. Je ne vous embrasse pas. À demain.
Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.